Bonsoir donc à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis Alexandre Roy, je suis doctorant à l'université Jean Moulin, membre du centre de droit pénal, et donc j'ai été intéressé par faire des conférences tout public. Alors je connaissais pas, je vous explique un petit peu ma démarche aussi. Moi je ne viens pas de Lyon, je viens de Saint-Étienne, et à l'université de Saint-Étienne il y a un fonctionnement qui est un petit peu similaire à l'université populaire, et j'ai essayé de trouver quelque chose se rapprochant de ça à Lyon. Il n'y avait rien d'autre que l'université populaire, et du coup j'ai auprès de Françoise Bressat, que je remercie de m'avoir accepté de participer à ces conférences, j'ai postulé, et du coup on m'a demandé de faire des conférences en droit pénal. Et donc Françoise m'a dit le thème de cette année c'est les doigts dans la crise. Bon, alors ça va bien se passer. Les doigts dans la crise, je savais pas bien où je mettais les doigts à vrai dire au tout départ, mais bon, petit à petit voilà, il y avait j'avais deux pistes de réflexion, soit qu'est-ce que le droit pénal peut avoir à voir avec la crise. Bon, c'est assez peu porteur, j'avais une idée déjà, et puis Françoise m'a dit faut faire trois coups. Bon, c'est un peu pénible. Du coup, j'ai revu mes idées, et je me suis dit, bon, la crise, on sait à peu près tous ce que c'est, un changement, une mutation profonde d'un système. Et je me suis dit, est-ce que le droit, et donc ma matière, c'est-à-dire le droit pénal, est-ce qu'on peut considérer qu'il est en crise lui-même, c'est-à-dire qu'il y a une transformation de la matière en elle-même. Et à mon avis, c'est plus ça qui était plus intéressant d'ailleurs, et c'est effectivement ce que j'ai développé ce cours et le cours prochain. Alors, crise et droit pénal, en soi, c'est pareil, ça ne va pas bien ensemble. Pourquoi ça ne va pas bien ensemble ? Parce que fondamentalement le droit pénal, ça concerne toute la sphère de la vie, et d'une manière globale, le droit de manière générale concerne toutes les activités humaines, le droit englobe toute la société. Dire que le droit est en crise, ça n'a pas vraiment de sens. Maintenant, dire que le droit connaît des évolutions et des mutations, oui, évidemment, le droit c'est quelque chose de linéaire, on part d'un bout et on va à un autre bout sans aucune évolution. Évidemment, c'est pas ça. Évidemment, dans l'évolution de tout système, il y a des évolutions, des mutations, et c'est pour cela que j'ai intitulé mon cours, le titre global, les mutations du droit pénal. Alors, ces mutations, on va les voir, concernent principalement les mutations du XXIe siècle, c'est-à-dire les mutations contemporaines du droit pénal, avec, je le développerai un petit peu plus tard, mais évidemment, un changement dans la société qui a eu des répercussions, évidemment, dans le droit pénal, c'est l'apparition d'une politique de sécurité issue d'une société de la peur, une société des risques, évidemment, que je développerai dans quelques instants. Alors du coup, j'ai découpé le cours de la manière suivante. Donc aujourd'hui, c'est une séance qui va plutôt être sur les causes du changement. La semaine prochaine, ce sera plutôt les mutations en elles-mêmes, et dans trois semaines, ce sera un point plus particulier qui concernera l'emprisonnement et les mutations liées à l'emprisonnement. Donc ce sera la dernière séance, puisque c'est ce qui concerne plus mon domaine de recherche, donc c'est pour ça que autant un peu le développer. Alors, donc cette séance d'aujourd'hui que j'ai intitulée « Sécurité ou liberté, le dilemme du XXIe siècle ». Alors, Bon, ce titre, il est de moi et pas de moi en même temps, puisque je l'ai pris à une auteure évidemment très connue en droit pénal, qui est Madame Delmas Marty, qui a publié un ouvrage qui s'intitule Sécurité ou liberté dans un monde dangereux, partant des lois sur la rétention de sûreté issues de 2008, et elle se pose la question de savoir pourquoi ça a été mis en place, voilà. Et c'est ce qui a nourri ma réflexion pour cette conférence. Alors, sécurité ou liberté, ces deux termes qui sont apparemment complètement opposés, a priori, hein, on voit pas bien comment la sécurité peut aller avec la liberté, et pourtant, dans la société d'aujourd'hui, notre droit est mélangé entre, d'une part, la liberté, qui est plutôt un renforcement des droits fondamentaux, et, on va dire, la sécurité, qui est plutôt un renforcement de la politique pénale sécuritaire depuis le début du XXIe siècle. Et c'est ce qui va me permettre de voir mes deux grandes parties de cette intervention, avec d'une part le renforcement des droits fondamentaux, et ensuite je verrai dans une deuxième grande partie le développement des politiques pénales sécuritaires. Alors le renforcement tout d'abord des droits fondamentaux. Alors, on le sait tous, en tout cas j'espère, que la France, c'est évidemment la patrie des droits de l'homme. Et alors, pourquoi? Pourquoi la France est la patrie des droits de l'homme? Je vais essayer de le démontrer, et ensuite je vous démontrerai que si les droits de l'homme sont si importants, c'est effectivement parce que, en France, effectivement, on a une culture de la protection des droits fondamentaux, mais aussi parce que l'Union européenne, l'Europe, joue un rôle également de protection des droits fondamentaux des personnes. Alors tout d'abord, la France, patrie des droits de l'homme. On va revenir un petit peu en arrière, on va commencer sous l'Ancien Régime, pour vous expliquer que sous l'Ancien Régime, je pense que vous le savez, le droit était relativement lacunaire, et présenté, le juge avait une certaine latitude pour prononcer une sanction et pour pouvoir appliquer telle ou telle peine. Bon. Il y avait d'ailleurs, à cette époque, un adage assez connu qui était les peines sont arbitraires dans ce royaume. Et c'est pas pour rien. Alors aujourd'hui, la connotation du terme arbitraire est devenue un tout petit peu péjorative. Sous l'Ancien Régime, effectivement, bon, arbitraire n'était pas forcément un signe de bonne chose, mais ce n'était pas si négatif que cela sous l'Ancien Régime. Aujourd'hui, effectivement, quand on dit c'est une détention arbitraire ou c'est arbitraire, effectivement, c'est assez violent. À l'époque, c'était évidemment c'était un petit peu moins négatif qu'aujourd'hui. Évidemment, quand on pense à arbitraire sous l'Ancien Régime, évidemment, la première chose qui fait référence, c'est évidemment les lettres de cachet, c'était la chose la plus arbitraire, c'était une décision du roi pour mettre en encellulement quelqu'un. Donc évidemment, c'était la volonté du seul prince. Mais évidemment, les idées ont évolué, notamment grâce aux penseurs du XVIIIe siècle, hein, les philosophes des Lumières, qui ont insufflé un mouvement d'égalité, de liberté dans la société, en contestant cet arbitraire, et évidemment ce qui va conduire à la Révolution française et à la rédaction, évidemment, de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Et évidemment, c'est le sommet, hein, de la protection des droits de l'homme, en France en tout cas. C'est la pièce maîtresse de la protection des droits de l'homme en France, mais j'ai envie de dire à l'étranger aussi, puisque d'autres pays se sont évidemment beaucoup inspirés de la Déclaration des droits de l'homme écrite en France. Et je vais juste vous lire, parce que un tout petit passage du préambule de la DDHC, parce que je trouve que d'abord c'est très bien écrit d'ailleurs, et ça résume à peu près l'idée. Les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Et je crois que ça résume à peu près bien l'idée que les droits fondamentaux en France ont une place toute particulière. Toute particulière. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans les détails de la déclaration, parce que l'objet n'est pas forcément de faire un cours de droit. Il y a différents articles dans la Déclaration des droits de l'homme qui concernent précisément le droit pénal. Évidemment, notamment, ce qui était évidemment tout à fait novateur pour l'époque, pas de détention arbitraire. Voilà, ça c'est pour les aides de cachet, bing. Le principe de la légalité criminelle est là aussi quelque chose de novateur pour l'époque, la présomption d'innocence, qui est toujours principe sacro-saint, principe en France. Ces principes et cette déclaration des droits de l'homme fait partie aujourd'hui, en 2013, fait partie de ce que l'on appelle le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire ce qui fonde l'État. Et évidemment, pour être protégée, pour pouvoir protéger ces libertés qu'elle renferme, eh bien, il y a un organe, une juridiction particulière qui a pour objet de veiller au respect de ces libertés garanties par la Constitution, et notamment donc dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est évidemment le Conseil constitutionnel. Alors le Conseil constitutionnel, je ne vais pas vous expliquer non plus, mais... La particularité aujourd'hui, en 2013, du Conseil constitutionnel, à mon avis, se résume à deux points principaux. Le premier, c'est évidemment une ouverture du Conseil constitutionnel aux justiciables. Avant, ce n'était qu'un contrôle a posteriori, c'est-à-dire avant la promulgation de la loi. Aujourd'hui, tout justiciable qui se prétend lésé par une disposition peut saisir le Conseil constitutionnel, enfin par un mécanisme, etc., de contrôle, mais... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas peut saisir le Conseil constitutionnel, ça c'est la première chose. Et une deuxième chose aussi, je pense que vous en avez entendu parler, récemment, le président de la République, M. Hollande, a souhaité que le Conseil constitutionnel devienne une vraie juridiction, et que, je pense que vous en avez entendu parler, que les présidents de la République ne siègent plus dans le Conseil constitutionnel. Je pense que vous en avez tous entendu parler à la télé. À mon avis, c'est une très bonne chose. Pourquoi c'est une très bonne chose? Parce que si, et ce qui est l'objet, c'est de faire de cette juridiction une juridiction, une vraie juridiction autonome, à ce moment-là, il n'y a pas tellement de solutions. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait plus aucun contact avec l'exécutif. C'est-à-dire évidemment que les présidents de la République ne siègent plus dans cette juridiction. Évidemment, une juridiction doit être évidemment impartiale. Évidemment, avec un lien avec l'exécutif, c'est un petit peu compliqué. Bon. Aujourd'hui, on constate une très nette extension du champ d'application du droit constitutionnel qui a été évidemment démultiplié par le biais donc de ces fameuses questions prioritaires de constitutionnalité qui ont étendu considérablement le champ du droit constitutionnel et permettre ainsi à ce que les droits fondamentaux des personnes soient réellement garantis et puissent être protégés. Alors, si effectivement donc les droits fondamentaux sont traditionnellement donc une valeur essentielle en France, il n'en demeure pas moins qu'elles sont également protégées, et c'est ma deuxième partie, par l'influence de l'Europe, un peu décriée en ce moment, mais bon, c'est pas grave. Alors l'Europe, bon, globalement, c'est la particularité de l'Europe, c'est d'avoir deux systèmes concurrents. Je vais essayer de vous présenter ça rapidement et sans trop vous embrouiller parce que c'est un petit peu technique, mais bon, ça va bien se passer là aussi, vous inquiétez pas. En gros, il y a deux systèmes en Europe qui cohabitent. Deux systèmes qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Il y a, en gros, l'Europe des droits de l'homme, protégée en gros par le Conseil de l'Europe et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Et après, il y a de l'autre côté l'Union européenne, qui est un truc à part, qui est autre chose. L'Union européenne, c'est, pour faire court, là aussi pour être un peu synthétique, c'est en gros tout ce qui concerne l'économie, d'accord, le marché économique, la libre circulation des échanges au sein d'un espace européen. C'est deux choses qui sont complètement différentes, qui n'ont absolument aucun rapport l'un avec l'autre, d'accord, mais qui pourtant cohabitent. Alors, bon, aujourd'hui, les frontières entre les deux sont un peu en train de s'estomper, mais globalement, c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. À tel point, par exemple, que les États membres de ces deux institutions ne sont pas les mêmes, je pense en particulier à la Turquie. La Turquie, qui fait partie du Conseil de l'Europe, qui est partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, n'est pas partie à l'Union européenne, et ne fait pas partie de l'Union européenne, enfin, pour le moment, parce que ça va changer, mais en toute état de cause, aujourd'hui, elle n'en fait pas partie. D'accord ? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de l'Europe élargie, celle du Conseil de l'Europe, et de l'Europe restreinte, celle de l'Union européenne. Alors, moi, ce qui me concerne en droit pénal, le droit communautaire, c'est-à-dire le droit de l'Union européenne, a un rôle assez limité, assez subsidiaire. Bah, là aussi, pourquoi tout simplement parce que c'est pas le but de l'Union, à la base, hein, à la base, c'est pas le but de l'Union européenne d'avoir une ingérence en droit pénal. C'est pas le but. L'Union européenne, à la base, c'est l'économie. Donc, a priori, le droit pénal, ça n'a pas tellement de rapport avec. D'accord, c'est la coopération des États, c'est la libre circulation des marchandises et des biens. Le droit pénal, en soi, ça n'a pas de rapport. Et ensuite, parce que le droit pénal, c'est une matière qui est extrêmement souverainiste. Les pays n'aiment pas beaucoup que d'autres pays viennent leur dire ce qu'il faut faire, évidemment. C'est la matière assez... Voilà, la souveraineté est assez importante. Cela étant... Il y a quand même des choses qui viennent de l'Union européenne. Hein. Bon, pour faire court, par exemple, vous avez Eurojust qui est une cellule de coopération judiciaire. Vous avez Europol qui est un organisme un office de police européen. Bon, voilà des structures, mais avec un rôle toujours subsidiaire. Par contre, et là évidemment, je vais y rester un tout petit peu plus longtemps, un rôle plus important, évidemment, du Conseil de l'Europe et de des droits de l'homme, évidemment. C'est ce qui m'intéresse davantage ici, avec l'activité du Conseil de l'Europe. Alors, évidemment, le Conseil de l'Europe a rédigé la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en 1950, et cette convention, évidemment, c'est... un certain nombre de droits qui sont garantis à la personne. Je pense en particulier à des droits comme la liberté de conscience, la liberté d'opinion, le respect de la vie privée, mais c'est aussi, et c'est surtout ça qui m'intéresse, la protection de droits par rapport à la personne qui se trouve dans un procès. Donc c'est évidemment notamment le droit à un procès équitable, le droit d'avoir une juridiction impartiale, équitable. C'est également le droit à la présomption d'innocence, évidemment, ce qui est le principe fondamental. C'est aussi le droit à avoir une défense, soi-même, ou par un conseil, d'avoir le temps de préparer sa défense, et c'est là où ça pêche souvent, parce que, effectivement, c'est bien beau d'avoir une défense, mais encore faut-il avoir suffisamment de temps pour préparer sa défense. C'est pas toujours évident. Bref, un certain nombre de droits qui sont protégés par la Convention qui, elle aussi, donc, interdit la peine de mort. Alors, juste pour la petite anecdote, il y a donc deux protocoles à la Convention européenne des droits de l'homme qui interdisent la peine de mort. Je vous disais tout à l'heure que la France était la patrie des droits de l'homme, ça dépend pourquoi, ça dépend dans quelle situation. Notamment par exemple pour la peine de mort, juste pour à titre anecdotique. Donc effectivement, vous le savez, je pense que la peine de mort donc, a été abolie en 80 par Badinter, hein, par le projet de M. Badinter. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Bon. Oui, mais d'accord, mais en fait, oui et non, en fait, la peine de mort n'était pas abolie vraiment en 1981. Elle était abolie pour le droit commun, pour les gens comme vous et moi, effectivement, la peine de mort était abolie. Par contre, il a fallu attendre un tout petit peu plus de temps, vraiment plus, pour que la peine de mort soit définitivement abolie, aussi bien en temps de paix, qu'évidemment aussi qu'en temps de guerre. Puisque effectivement, la restriction qu'il y avait lorsque la peine de mort avait été abolie en 80, c'était qu'elle n'était pas abolie lorsqu'il y avait la guerre. Alors évidemment, bon, a priori, il n'y avait pas de raison qu'il y ait de nouveau une guerre entre-temps, mais bon, quand même, on ne sait jamais, et il y avait toujours cette restriction-là. Et il a fallu attendre 2002, pour que la France signe le protocole 13, c'est-à-dire qui interdit définitivement la peine de mort, et 2007, donc c'est-à-dire il n'y a pas 50 ans, hein, 2007, pour que la France inclue dans la Constitution l'abolition définitive de la peine de mort. C'est pour vous dire, hein, c'est quand même là pour le coup. Bon, sur certains points, on n'est pas non plus toujours très avant-gardiste, hein, bon, enfin bon. Bref, pour revenir à cette influence du Conseil de l'Europe, évidemment, pour qu'il y ait une vraie effectivité des droits fondamentaux protégés par la Convention, évidemment, il faut qu'il y ait une juridiction. Cette juridiction, c'est effectivement la Cour européenne des droits de l'homme qui siège à Strasbourg, si vous voulez l'imiter, pourquoi pas, c'est très joli. Et qui a, évidemment, pour objet donc de veiller à la protection des droits des individus. Alors cette influence s'est traduite en France par une évolution de certaines législations qui proviennent directement ou indirectement d'ailleurs du droit de la Cour européenne des droits de l'homme. Je pense en particulier à la loi du 15 juin 2000 par exemple sur la présomption d'innocence. Je pense en particulier à la loi du 4 mars 2002 sur qui était relatif au droit des malades, qui a inclus la suspension médicale de peine, c'est issu de ça. Je pense en particulier aussi à la loi du 14 avril 2011 sur la garde à vue, qui l'a aussi fait suite à de nombreux arrêts provenant de Strasbourg. Des évolutions aussi en matière de jurisprudence criminelle, la Cour française interne a fait évoluer là aussi ses positions en utilisant les concepts et les droits protégés par la Convention, là aussi toujours dans le but de protéger au maximum les droits des personnes. Alors, si on l'a vu, globalement, on a d'une part un renforcement des droits fondamentaux des personnes, il n'en demeure pas moins que s'est développé en France, au XXIe siècle notamment, un renforcement des politiques pénales sécuritaires, et c'est ma deuxième grande partie. Alors, avant de parler véritablement du XXIe siècle, on va faire un tout petit détour au XXe siècle pour vous montrer d'abord cette évolution. Et dans un premier temps, je verrai l'effacement apparent des politiques pénales sécuritaires au XXe siècle. Alors, pour faire court, la politique pénale, en gros, peut être résumée de la sorte, on a, en gros, un premier courant de pensée qui part du postulat qu'un homme, c'est un être conscient, qui est doué de volonté, et qui agit en toute indépendance, et donc par conséquence, eh bien, pour punir, il faut lui appliquer une peine proportionnée à l'acte qu'il a commis. Ça, c'est le premier courant de pensée qui est toujours d'ailleurs en vigueur. Hein. Le second courant de pensée, part du postulat que l'homme commet des actes par un certain déterminisme. Soit un déterminisme physiologique, soit par un déterminisme social. C'est-à-dire qu'il y a des causes qui lui sont imputables, et ou pas d'ailleurs, qui le poussent à commettre une infraction. Bon, alors c'est ce qu'on a appelé les théories positivistes. Alors elles ont été développées par Lombroso, par Ferry, par Garofalo au XIXe siècle. Alors pour, par exemple, pour vous donner un exemple, avec Lombroso, donc c'est, à la base c'est un médecin, et le, donc son idée c'était d'étudier, alors c'était, c'est très 19e siècle, on est dans le, voilà, dans l'esprit, c'était d'étudier comment on devient criminel, hein, c'est le, c'était son postulat de base, et pour cela il va étudier, donc comme il est professeur de médecine, il va étudier les corps humains, en disant, en fonction de comment le corps humain il est fait, ça va me dire si la personne elle est criminelle ou pas, s'il a le nez d'une certaine manière, les oreilles machin, etc. Et alors c'est pas si anecdotique que ça, parce que ces politiques vont avoir une vraie répercussion dans le droit positif. C'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui on dit mais c'est complètement ahurissant comme théorie, ce qui est évidemment pas faux, mais pour l'époque d'une part ça va avoir un grand retentissement en Europe et en France notamment, je pense en particulier à la loi de 1885 qui met en place la relégation des récidivistes, qui est issue complètement de ce mouvement-là, hein, en disant de toute façon comme il est récidiviste, ça veut dire qu'il n'est pas du tout socialisable et du coup, tant pis, hein, on l'envoie, la relégation c'était envoyer la personne dans les colonies. Comme ça on est sûr qu'il ne revient plus en métropole et comme ça c'est vite réglé. Hein. Bon, c'était la mentalité de l'époque. Ça a conduit également à d'autres lois en 1953-1954 sur la désintoxication des personnes qui s'adonnaient aux stupéfiants ou à l'alcoolémie. Voilà, c'est, on est dans cette mentalité-là. Alors juste, par exemple, je ne sais pas si vous avez fait attention, avec le gouvernement précédent, il y a eu un petit relon de positivisme à un moment donné, je ne sais pas si vous avez bien fait attention, parce que, bon, ça, c'était passé très très rapidement hein, dans la presse, mais c'était quand même passé. Le gouvernement précédent avait dit... les enfants qui sont trop vifs, qui bougent beaucoup, c'est des potentiels délinquants. Bon, pourquoi pas? On est pile là-dedans, hein? On est pile là-dedans. Et en plus de ça, dans ce qui est évidemment dans le positivisme même pur, c'est-à-dire le positivisme physiologique, c'est-à-dire qui, pourquoi, comment, je sais pas. D'accord. Bon. Alors, évidemment, quand même, au XXe siècle, l'idée c'était quand même surtout que la peine soit basée donc sur, en partant du postulat que la personne est douée de volonté et de raison, mais quand même, il y avait quand même cette idée-là. Et puis vient un tournant majeur du XXe siècle, en 1954, c'est le tournant du XXe siècle, avec Marc Ancel, qui va écrire un livre. Alors Marc Ancel, qui est conseiller à la Cour de cassation, et qui va écrire un ouvrage, et qui va avoir un retentissement phénoménal. L'ouvrage s'intitule « La défense sociale nouvelle » de Marc Ancel, et qui va avoir un retentissement incroyable. Lui, son idée de base, son postulat de base, on reste un petit peu dans l'idée du positivisme. C'est-à-dire qu'effectivement, une personne qui commet un acte délinquant, c'est, alors ce qui est assez nouveau, c'est que, effectivement, il commet une infraction parce qu'il y a eu des carences dans sa socialisation. Qui est assez nouveau, on n'est plus du tout sur la physiologie, sur des trucs un peu... Non, effectivement, on part du principe qu'il y a une carence dans sa socialisation et que du coup, il faut non pas le sanctionner, mais le resocialiser. Et ça, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. Alors, il s'inspire pas, ça tombe pas du ciel non plus, mais il s'inspire d'un autre penseur qui s'appelait Gramatica, qui avait émis la même théorie un petit peu avant. Mais en France, en tout cas, c'est complètement nouveau. Évidemment. Alors lui, son idée en gros, c'est deux points. Pour pouvoir effectivement resocialiser la personne, bon, alors effectivement, c'est connaître l'individu. Donc ça veut dire faire une étude véritablement de la personne, c'est-à-dire que pour condamner la personne, il faut la connaître. Là aussi, ce qui n'était pas vraiment très développé à l'époque, nouveau, et du coup, qu'il faut... Alors, pour Marc Poncel, il va même très loin, puisque lui, là aussi, comme les positivistes, il va même jusqu'à prôner plus du tout de sanctions, carrément, mais des mesures, dans son esprit, c'est presque des mesures thérapeutiques. Donc on n'est même plus vraiment, dans son esprit, c'est même plus du droit pénal, hein, c'est carrément pratiquement, presque de la médecine, pratiquement, hein, presque de la médecine. Et tout ça pour protéger la société. Mais c'est tout à fait nouveau. Alors ça va avoir des répercussions, évidemment, dans notre législation. Alors évidemment, l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante, c'est très clairement issu de ce mouvement-là. L'idée avec les mineurs, avec le droit des mineurs, c'est de dire, de partir du principe qu'un mineur, alors là c'est même paraître carrément, il n'est pas à resocialiser, il est à socialiser carrément, et c'est de dire, l'idée n'est pas de, enfin entre guillemets, hein, n'est pas de le taper, mais de le remettre dans la société, ou s'il n'a pas acquis les bases de la socialisation, de le socialiser. Ça, c'est complètement issu de la défense sociale, et c'est toujours le cas, alors même s'il y a des débats, plus ou moins pour dire, effectivement, il y a eu des débats assez récents pour dire, mais les juges sont trop laxistes pour les mineurs, ils recommettent 20 fois les mêmes choses. Oui, mais la base, l'origine, c'est quand même d'abord de le remettre dans la société, avant de lui taper dessus, enfin, entre guillemets, je m'entends, hein. Mais l'idée, c'est vraiment d'abord de le resocialiser. Après, il y a eu des lois du 11 juillet 1975 et du 10 mai 1983 qui ont créé des mesures alternatives à l'emprisonnement. Et globalement, le code pénal de 1994 est issu globalement de ce mouvement-là de la défense sociale nouvelle. Alors, pourquoi j'ai intitulé cette partie l'effacement apparent des politiques pénales ? Tout simplement parce que, bon, effectivement, on est plutôt ici, là, dans un mouvement, on va dire, plutôt en faveur du délinquant. Il n'en demeure pas moins qu'au XXe siècle, il y a quand même eu des pics sécuritaires. Je pense en particulier à la loi du 22 novembre 1978 qui a créé la période de sûreté. Je pense que là aussi, vous en avez peut-être entendu parler de la fameuse période de sûreté. Qu'est-ce que c'est qu'une période de sûreté ? C'est une période pendant laquelle, lorsque le juge la prononce, aucune mesure d'individualisation ne peut être prononcée, c'est-à-dire que la personne, elle reste en prison pendant un temps qui est déterminé par le juge, ça peut être 10, 15 ans, voilà. Bon. Sachant que, juste pour votre information, en France, il n'y a pas de peine perpétuelle, hein, même si la perpétuité existe, ce n'est pas le cas en pratique, hein, la personne sort toujours avant. Voilà. Cela pour arriver à ma dernière partie qui est effectivement le renforcement contemporain d'une politique pénale sécuritaire. Alors, la base que Madame Delmas-Marty démontre et que je vais vous démontrer aussi part des attentats de 2001, du 11 septembre 2001. En disant que, en 2001, il y a eu un changement profond et radical de la société. Alors effectivement, bon, les attentats sont produits aux États-Unis, pas en France, mais que ces attentats qui sont produits aux États-Unis ont eu des répercussions à travers le monde et ont entraîné des changements de la société profonds et radicaux qui ont eu des changements et qui ont eu des répercussions dans le droit pénal en France. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors pourquoi justement il y a eu pourquoi ça a entraîné un changement si important? Tout simplement parce que ces attentats de 2001, il y a déjà eu des attentats avant, le métro, à la station Saint-Michel par exemple en France, il y a déjà eu des attentats. Mais en 2001, pourquoi c'est, entre guillemets, c'est nouveau? Tout simplement parce que il n'y a plus réellement d'ennemis clairement identifiés, c'est une entité terroriste. Comment peut-on lutter contre quelque chose qui n'est pas clairement défini? Je ne sais pas, et d'ailleurs c'est pas pour rien si ça a été un peu compliqué, notamment pour les États-Unis, de lutter contre le terrorisme. C'est pas pour rien, mais tout simplement parce que c'est très délicat. Et ce qui est tout à fait nouveau, c'est que à l'époque, les terroristes, c'est que ça peut être vous, moi. Il n'y avait pas de... ça pouvait être quelqu'un de tout à fait normal, mais qui, à un moment donné, pour telle ou telle raison, pouvait passer à l'acte et commettre des infractions. Et c'est ce qui a provoqué ce changement si radical. Pourquoi? Parce que on passe. Du coup, on s'aperçoit que, comme ça peut être n'importe qui commet des attentats, évidemment, on commence à avoir peur de tout le monde. Évidemment. Eh oui. Donc, évidemment, de là va apparaître ce que Ulrich Beck va appeler la société du risque. On peut aussi dire la société de la peur. Peur de quoi? Peur des dangers d'origine naturelle. Bon, ça m'intéresse un peu moins, mais surtout d'origine humaine. Et c'est surtout ça qui va entraîner des changements profonds dans le droit pénal contemporain. Parce que ces nouveaux dangers, alors qui sont quoi? Qu'est-ce que c'est que ces dangers? C'est la peur, évidemment, de l'autre. L'autre, qui c'est? C'est certains types de délinquants. Les pédophiles. Dès qu'on allume la télévision, les seuls qu'on voit, c'est les pédophiles. Bon. Les personnes qui ont commis des violences volontaires, et notamment contre les personnes, parce que là c'est pareil, il y a une forte charge émotionnelle qu'on sait contre les personnes. Ça peut être aussi, là aussi, autre bouc émissaire, les récidivistes, parce qu'on considère qu'ils ne peuvent pas du tout, comme ils recommencent tout le temps, ils ne peuvent pas se réinsérer. Donc, on les met au banc de la société. Et, à mon avis, ce qui est plus délicat, c'est aussi les dangers potentiels, ceux qui sont potentiellement porteurs de risques, et c'est évidemment les malades mentaux, par exemple, en considérant que, comme il est schizophrène, il va peut-être passer à l'acte. Peut-être, mais peut-être pas aussi, on n'en sait rien finalement. Alors oui, certes, il ne faut pas non plus tomber de l'autre côté, effectivement c'est une maladie qui effectivement est dangereuse, mais là aussi, est-ce que ça peut justifier les modifications législatives que je vais vous expliquer? Je ne sais pas, le débat en tout cas est ouvert. En tout état de cause, cette société de la peur qui s'est développée depuis ces attentats de 2001 ont entraîné des atteintes profondes à certaines libertés fondamentales telles que la liberté d'aller et venir, telles que la dignité, telles que le respect de la vie privée. Vous n'avez jamais été autant surveillé qu'aujourd'hui, que depuis ces dernières années. Quand vous allez place Bellecour, par exemple, vous avez je ne sais combien de caméras de vidéoprotection autour de la place, et globalement, quand vous promenez dans le centre-ville d'une ville, vous êtes surveillé partout. Et ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est justement ça qui est étonnant, c'est avec cette société de la peur, c'est que les gens ont petit à petit accepté ces atteintes-là en disant pourquoi pas, parce que on court un risque. Donc, c'est pas très grave, parce que finalement, Sinon, on va courir un risque. Autant mettre des caméras, parce que comme ça, on sera protégé. Manque de peau, les caméras de protection, ça ne fait pas tout, parce que finalement, la délinquance se commet quand même. Voilà. Mais, en tout état de cause, on commet quand même, on met quand même des caméras de vidéoprotection, et puis on en met de plus en plus, et partout. Parce que ce serait soi-disant une solution miracle, alors que pas du tout, hein. Je ne vous apprends rien en vous disant que la vidéosurveillance, ça n'enlève pas la délinquance, ça la déplace ailleurs. On la déplace là où il n'y en a pas, évidemment, mais ça ne la supprime pas, globalement, évidemment. Hein. Bref. Alors, quelques exemples de lois assez sécuritaires. La première, c'est la loi du 9 mars 2004, la loi Perben 2. La loi Perben 2 qui a, alors bon, on n'est pas très loin de 2001, cette loi Perben 2 qui a instauré dans le code de procédure pénale toute une partie sur la criminalité organisée. Bon, alors pourquoi pas, et notamment donc effectivement les actes de terrorisme et la procédure qui en découle. Ce qui est intéressant, c'est que cette loi met en place un système dérogatoire à la procédure de droit commun. Et une procédure dérogatoire assez musclée. Parce que, par exemple, sans rentrer trop dans les détails, mais par exemple, la garde à vue, pour vous expliquer rapidement ce que c'est, hein, c'est garder une personne dans les locaux de la police pour les besoins de l'enquête, d'accord? Et en sachant que les locaux de la police ne sont pas faits pour garder des gens ad vitam aeternam. Normalement, la durée d'une garde à vue de droit commun, c'est 24 heures, c'est-à-dire une journée qui peut être renouvelable une fois. Bon, très bien. Cette loi de 2004 est venue mettre en place un système dérogatoire, et notamment en matière de terrorisme. Ce qui est le crime le plus grave, en tout cas dans notre société, prévoit une durée de 6 jours de garde à vue. 6 jours, c'est énorme. 6 jours dans les locaux de garde à vue, bon courage, hein. C'est quand même très, très, très long. Mais là aussi, c'est justifié parce que il va peut-être passer à l'acte. Donc il faut l'en empêcher à tout prix. Le deuxième exemple, c'est, là pour les récidivistes, la loi du 10 août 2007. La loi du 10 août 2007, qu'est-ce qu'elle met en place? Les peines planchers. Les peines planchers, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, voilà, vous commettez telle infraction, donc en récidive, la récidive c'est le fait de recommencer la même infraction, ou des infractions assimilées pour faire court, et vous recommencez la même chose. Et les peines planchers, c'est de dire, bon ben voilà, vous avez commis telle infraction, du coup, en théorie, on ne peut pas descendre en dessous de telle peine. Alors, par exemple, en dessous de 2 ans d'emprisonnement. Paf. Bon, alors évidemment, il y a des dérogations, hein, mais l'idée, là aussi, c'est de dire, comme ce sont des personnes qui manifestement sont ancrées dans la délinquance, il ne faut pas qu'ils recommencent. Et on a cette idée-là que si on peut un peu le taper, c'est un peu l'idée. Alors on le tape évidemment plus physiquement, mais on le tape comme on peut. Et la manière de le taper, c'est de l'incarcération ferme. Alors évidemment, il y a des dérogations évidemment à ces peines planchers, mais l'idée c'est ça, hein, c'est de dire on va être plus dur avec des personnes qui recommencent. L'autre exemple que je vais un tout petit peu plus développer, parce que c'est l'exemple le plus significatif de la politique sécuritaire de ce début du XXIe siècle, c'est la loi du 25 février 2008, et c'est cette loi qui a conduit Madame Delmas-Marty à écrire son ouvrage Liberté ou sécurité dans un monde dangereux. Cette loi de 2008, elle met en place des mesures inédites qui n'avaient jamais été mises en place auparavant. Elle met en place ce que l'on appelle la surveillance et la rétention de sûreté. Alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est si inédit que ça? Ça n'existait pas auparavant en France. Alors, ça existait déjà en Allemagne, puisque la rétention de sûreté s'était déjà mis en place, puisque c'était une mesure qui avait été mise en place par le régime nazi en 1933. et qui subsiste toujours, d'ailleurs, et qui est toujours utilisé en Allemagne, et qui, du coup, a été transposé en France. Alors, qu'est-ce que c'est, notamment, que la rétention de sûreté? La rétention de sûreté, donc, c'est, on va dire, l'enfermement d'une personne condamnée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pour le soigner, d'accord, lui apporter des soins psychiatriques, psychologiques, d'accord, destinés à mettre fin donc à la mesure. La particularité de ces mesures, c'est que ce ne sont pas des peines, mais ce sont des mesures de sûreté. Alors, en soi, vous allez me dire, bon, c'est juridique tout ça, mais qu'est-ce que ça peut faire, que ce soit une peine ou une mesure de sûreté? Ben, ça fait tout. Ça fait tout parce que une peine, ça a une durée limitée, c'est un CDD, une peine. Au bout d'un certain temps, ça se termine, et puis ben voilà, on oublie, quoi, pour faire court. Alors qu'une mesure de sûreté, ben non. Et c'est la particularité des mesures de sûreté. Une mesure de sûreté, ben ça se renouvelle indéfiniment. Et le problème, c'est que ces mesures de sûreté, elles sont basées sur une dangerosité potentielle. Alors le problème, c'est que la dangerosité potentielle, moi je très bien, mais le problème, c'est que, évidemment, c'est très difficile à savoir si une personne est dangereuse, et puis surtout, c'est très difficile de savoir quand est-ce qu'elle est toujours dangereuse, etc. Et ce sont des mesures qui se renouvellent tout le temps. Alors évidemment, il y a quand même un garde-fou, parce que c'est pas prononcé comme ça, ça tombe pas du ciel, c'est prononcé par une juridiction, mais quand même, la grande particularité, c'est qu'en soi, ça peut être renouvelable tout le temps que ça veut. C'est-à-dire que fondamentalement, techniquement parlant, alors, bon, aujourd'hui, il n'y a pas de personne qui soit en rétention de sûreté, parce que c'est trop récent, mais en soi, une personne pourrait rester toute sa vie en rétention de sûreté après avoir été condamnée, fondamentalement, parce que c'est basé sur une dangerosité qui est, voilà, et soyons très clairs, hein, comme les médecins ne veulent prendre aucun risque, et ce que je peux tout à fait comprendre, hein, pour le coup, en disant si demain je le remets dehors pour qu'il sorte ou pour qu'il se réintègre, hein, parce que vous savez qu'il y a aussi les traitements psychiatriques peuvent se faire soit en hôpital psychiatrique, soit à domicile, hein, en soins ambulatoires. Si on le met en soins ambulatoires, est-ce qu'il va pas recommencer? Le problème, c'est que le médecin, il n'est pas chez lui, enfin, il n'est pas chez la personne. Donc, est-ce qu'il va recommencer ou pas? C'est un pari que le médecin fait. Et que, pour être très honnête avec vous, le médecin, il ne va pas prendre le risque de dire, on va le faire sortir. Parce que, faut bien être clair, s'il recommence, c'est pour le médecin. Hein, donc, évidemment, il vaut mieux qu'il se protège en disant, on va le garder, hein, chez nous. Sauf si vraiment, on est sûr à 100% qu'il est, je sais pas, par exemple, qu'il y ait quelqu'un de sa famille qui puisse lui donner les médicaments pour que sa maladie soit atténuée, ou etc. Mais sinon, la personne sera gardée, hein, pour être très honnête avec vous. Et c'est vraiment là où la politique sécuritaire a vraiment basculé, parce que, effectivement, là, c'est le point ultime de la sécurité, et notamment de ce que je vous disais tout à l'heure, de la société de la peur et du risque. Hein. Parce que là, c'est sur une dangerosité, vraie ou pas vraie. Parce que, là aussi, la dangerosité, pour faire court, là aussi, la dangerosité, hein, globalement, c'est la dangerosité psychiatrique. C'est-à-dire que le juge va demander est-ce que cette personne-là est dangereuse. Qui c'est qui la déclare? C'est un psychiatre. Donc lui, la seule chose, c'est de dire est-ce qu'il est malade ou pas psychiatriquement, hein, en gros, est-ce qu'il est schizophrène ou pas. La réponse, c'est que si c'est oui, c'est malheureux pour la personne. Hein. Et ce qui arrive, hein, voilà. Alors, enfin, dernier exemple, il y a eu un groupe de contrôle des fichiers de police et de gendarmerie qui a été piloté par Monsieur Alain Bauer, qui est un criminologue, et qui donc a fait un recensement un petit peu des fichiers de police. Donc, vous savez qu'on est à peu près tous fichés. Enfin, si vous commettez des infractions, vous êtes à peu près tous fichés. Et il a recensé, donc, entre 2006 et 2008, le passage de 34 à 45 fichiers de police. En 2 ans. 11 fichiers de police en 2 ans. Bon, bah, encore aujourd'hui, ça a encore augmenté. Bon, pour tout, hein, ça peut être des empreintes génétiques, aux expertises génétiques, etc., etc. Des profils, il y a des fichiers pour chaque type de délinquance, etc. Hein, bon, voilà. Donc voilà, tous ces exemples-là nous montrent bien quand même, je pense en avoir fait la démonstration, que on est quand même arrivé à une certaine politique sécuritaire. Mais le droit pénal contemporain, il faut bien l'avoir en tête, a ces deux aspects, ces deux poumons, que sont d'une part la protection des droits fondamentaux et d'autre part des politiques plus sécuritaires, et à tel point qu'aujourd'hui on peut distinguer, et je ne pense pas trop me tromper en disant ça, qu'il y a en gros deux types de législation pour deux types de délinquants. On va dire en gros une politique plus protectrice, entre guillemets, pour les primo-délinquants qui bénéficient de nombreux droits qui sont protégés, comme je vous l'ai dit, hein, par le Conseil constitutionnel, par... voilà. Et une politique très sécuritaire pour les délinquants dangereux. Et qu'on a aujourd'hui deux droits qui cohabitent ensemble, hein, mais qui sont deux droits différents et qui, alors, ne sont plus basés, et c'est surtout ça qui est important, c'est que c'est plus basé sur de l'objectif, mais c'est basé sur du subjectif, c'est-à-dire sur la qualité de la personne, et non plus sur des actes. Et c'est ça qui est nouveau. Alors, pour terminer définitivement cette intervention, le gouvernement actuel, donc le gouvernement de M. Hollande, semble avoir dans l'esprit d'être moins dans une politique sécuritaire et de davantage revenir à une politique plus raisonnée, en tout cas une politique pénale plus raisonnée. C'est ce que démontrent, par exemple, les conclusions d'un jury qui s'appelle le jury de la conférence de consensus, qui a rendu un rapport au ministre de la Justice, au garde des Sceaux, le 20 février 2013, dans lequel, effectivement, l'idée, c'était de revenir à une politique pénale, pas plus protectrice des droits de l'homme, mais en tout cas plus raisonnée. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, et j'espère maintenant que vous allez avoir des questions pour pouvoir un petit peu débattre de tout cela. Merci.